Micro méga. Jean-Yves Casga.
Bonjour, bonsoir. Sur Micro-Méga, ce mois d'août est celui des visionnaires. Ils sont rigoureux parce que leurs connaissances le leur permettent, mais ils osent sortir des sentiers battus parce que leur talent, c'est le courage. Et leur objectif, l'avenir de tous les enfants de la Terre. Cet été, ils se sont donné rendez-vous sur RFI dans une série d'émissions exceptionnelles pour suivre, comprendre, anticiper et rêver le monde. Avec aujourd'hui en première partie, Jean-Pierre Gou. Chercheur en mathématiques et en informatique, héritier de Saint-Exupéry, Kessel, Barjavel, il publie le premier ouvrage d'une série de 3 siècles bleus, un thriller écologique à base de science et de technologie décoiffant. Et puis en deuxième partie, Jacques Rougerie. L'architecte de la mer, utopiste réaliste. Il nous emmènera de 20 000 lieues sous les mers à 6 orbiteurs, le vaisseau d'exploration qui fait le lien entre la mer et le ciel. Son équipage, Jean-Loup Chrétien, Claudie Agnoret, Joël de René, entre autres, mais aussi le commandant Cousteau, toujours présent, pour qui les missions impossibles sont les seules qui réussissent. Micro-Méga, bienvenue dans le monde des visionnaires. Micro-Méga. Jean-Pierre Gou, bonjour.
Jean-Yves Casga, bonjour. Merci de m'inviter sur le plateau de cette émission.
Eh bien, écoutez, moi, quand j'ai reçu Siècle Bleu, j'ai commencé à lire, et puis alors, ça m'a fait comme ça me fait de temps en temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, aïe, 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 je vais encore pas dormir cette nuit parce que je vais avoir envie de le finir. Donc, je me suis dit, oulala, lui, il a touché un truc. Et puis, le truc qu'il a touché, si je peux résumer, moi, ça fait une trentaine d'années que je regarde un petit peu mes contemporains et certaines disciplines du savoir. Et en fait, si j'avais été enlevé par des extraterrestres il y a 30 ans et qu'on me reprojetait aujourd'hui sur la planète bleue et qu'on me donnait votre livre, eh bien en fait, j'aurais une sorte de résumé de tout ce qui a été important, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je suis si sensible à votre livre. Et qui en même temps m'ouvre un petit peu des perspectives et des prospectives même en disant waouh, pourrait y avoir un futur, peut-être un peu différent, on va voir. Et c'est ce qui m'a donné envie d'ouvrir cette série de visionnaires avec vous, Jean-Pierre Gou.
Bah écoutez, je suis très touché par vos propos. Dans mon cas particulier, je suis né en 73, donc il y a un peu plus d'une trentaine d'années.
Ah ben bah l'année où j'ai été enlevé par les extraterrestres.
Voilà, l'année où vous avez été enlevé par les extraterrestres. Donc je suis ravi que ça puisse combler cette période d'abduction, comme on dit, hein, par les extraterrestres. Le propos de ce livre, c'est plutôt de raconter le 21e siècle, hein, puisque le propos du livre démarre au début de ce siècle. Enfin, les dates sont pas citées, mais ça commence en 2000, donc c'est un roman qui est contemporain. Et j'essaie de raconter le siècle quel qu'il est, mais aussi tel que j'aurais voulu qu'il soit. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses négatives dans ce monde, mais il y a beaucoup de choses aussi très positives, et qu'on a besoin de gens qui rêvent, de gens qui ont des utopies, qui les partagent pour redonner aux gens l'espoir et l'envie de rêver, puisque c'est ça qui nous fera avancer. Donc, si à mon humble mesure, j'ai réussi à vous faire passer ces éléments, je suis déjà très content d'en être arrivé là. Quoi.
Alors, Jean-Pierre Gou, vous avez une base de connaissances qui est autour des mathématiques et de l'informatique, c'est ça ?
C'est ça. Enfin, j'ai toujours été passionné depuis tout petit par les mathématiques et l'informatique.
Vous avez été chercheur, même.
Donc j'ai été chercheur, donc j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai été chercheur pendant plusieurs années aux États-Unis où j'ai fait des recherches sur, en fait, des mathématiques appliquées à l'économie pour la résolution de grands problèmes économiques qui nécessitaient beaucoup de calculs. Donc on utilisait les ordinateurs pour réaliser ces calculs. Et à l'époque, j'avais les espoir que ces calculs, s'ils étaient bien faits, ils donneraient des bons indicateurs aux décideurs et que tout se résoudrait, que le monde suivrait des orientations données par des scientifiques. Et mais malheureusement, j'ai assez vite compris que la rationalité, c'est important, mais que derrière, les décideurs n'ont pas la possibilité toujours de choisir ce qu'ils veulent faire. Et parfois, ils n'ont pas le courage de le faire. Et en tout cas, il faut bien plus qu'une démonstration pour pouvoir convaincre les gens. Et c'est à ce moment-là que je me suis interrogé au roman et à la fiction.
Donc en fait, c'est une sorte de déception devant ce qu'on faisait avec l'outil mathématique.
C'est pas forcément une déception, mais je me suis dit qu'il fallait quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que il faut continuer à prouver les choses de façon rationnelle, parce que si on est dans l'irrationnel toujours, on peut arriver à faire n'importe quoi et on peut dériver vers des idéologies totalitaires. Donc c'est important qu'il y ait de la rationalité quand on traite de sujets qui sont scientifiques et surtout qui ont des impacts économiques importants. Donc par exemple, tous les débats qu'il y a actuellement sur le réchauffement climatique, je trouve ça très sain qu'ils aient lieu, puisqu'il faut que le débat scientifique soit vraiment le plus poussé possible. Et il faut qu'il puisse y avoir de la contestation, même si on ne l'aime pas. Le propre de la science, c'est qu'il y ait justement un débat très rationnel. Mais en plus de ça, si le débat scientifique doit mener sur une action politique, eh bien là, il faut donner du courage ou de l'envie de rêver aux gens qui votent, aux gens qui suivent les politiques et aux politiques eux-mêmes. Et là, la fiction peut apporter quelque chose. Donc, ce n'est pas une déception, mais je me suis dit qu'à...
Il vous manquait un outil.
Voilà, il me manquait un outil. Et le roman est un outil assez extraordinaire.
Alors, vous étiez chercheur, vous étiez aux États-Unis, des outils mathématiques avec des très gros ordinateurs, disons la vision économique du monde. Oui. Et puis, là, aujourd'hui, vous ne faites pas qu'écrivain, parce qu'écrivain, surtout quand on démarre, pas facile.
Non, j'ai écrit ce livre dans mon temps libre. Dans mon temps libre, je lis beaucoup. Et puis, ça fait presque 10 ans que j'ai l'idée de ce projet qui a démarré pour le jour de la Terre en l'an 2000, où j'avais écrit une série de 7 petits textes que j'avais partagés avec des amis. Et les amis m'avaient dit, c'est quand même pas mal ce que tu as écrit, c'est intéressant, tu devrais poursuivre. Et puis, j'avais toujours eu beaucoup de plaisir à lire certains romans, notamment des romans visionnaires. Vous parliez de Barjavel, ça a été toujours une révélation quand j'étais adolescent. Et même jusqu'à récemment, je les relis et c'est des livres qui sont assez extraordinaires. Et
le fait d'avoir une sacrée vision.
Ah, il avait une
ceux qui n'ont
vision.
Pas lu René Barjavel, il faut vous précipiter sur n'importe quoi qu'il ait écrit.
Notamment sur La fin du tigre, qui est un essai philosophique qu'il a écrit sur l'histoire de la vie, qui est extraordinaire, que les gens connaissent très peu, et que je vous recommande vraiment activement. En tout cas, j'avais toujours eu cette envie d'écrire, et cette envie d'écrire, je l'ai toujours fait en marge de mon travail. Donc, au départ, j'étais chercheur, puis après, justement, pour me rapprocher plus des centres de décision, j'ai aidé des amis, là, je suis revenu en France à monter une société qui aidait les grandes entreprises françaises à modéliser et à résoudre des problèmes de gestion ou des problèmes d'organisation qu'elles avaient avec des outils mathématiques. Et on a aidé des tas de grands groupes comme EDF, GDF, Air France, la SNCF à améliorer leurs processus et à améliorer leurs décisions. Enfin, ça a très bien fonctionné. Et puis, de tous les secteurs qu'on avait identifiés, celui qui me passionnait le plus, c'était le secteur de l'énergie, parce que au-delà des problèmes climatiques que l'on a, le vrai problème qu'on a, c'est un problème énergétique, puisque le problème qu'on aura ce siècle-ci, c'est la fin du pétrole, et d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on trouve un substitut aux énergies fossiles qu'on consomme trop vite et surtout qu'on apprenne à moins consommer d'énergie. Donc je me suis intéressé beaucoup à cette époque-là quand j'étais dans ce métier de conseiller à ces questions énergétiques. Et là, depuis plusieurs années, je me consacre à ça dans mes activités professionnelles. Donc c'est de comprendre comment on peut concilier le monde du développement durable avec les impératifs économiques, puisque le monde énergétique est un marché ouvert, libéralisé, et c'est pas toujours simple de concilier l'action politique avec des marchés libéralisés. Donc j'essaye à mon niveau d'influencer et en tout cas d'éclairer les choix des décideurs dans ce secteur.
Et c'est pour ça que dans Siècle Bleu, on va récolter de l'hélium-3 sur la Lune.
Alors effectivement, dans Siècle Bleu, un des fonds de l'intrigue, c'est une lutte entre les États-Unis et la Chine qui a déjà commencé depuis le début du siècle pour retourner les premiers sur la Lune. Donc les États-Unis en étaient partis en 1972, c'était la mission Apollo 17, depuis on n'y est pas retourné. La NASA, depuis, a essentiellement envoyé des navettes en orbite terrestre et puis a construit la Station Spatiale Internationale avec ses partenaires. Mais il n'y avait pas de grand projet pour retourner ailleurs dans le système solaire. Alors Bush en avait lancé un qui s'appelait Constellation et qui avait pour but de renvoyer des hommes vers la Lune, puis après vers Mars et puis après ailleurs dans le système solaire. C'est un projet qui mobilisait toutes les équipes de la NASA et qui devait faire le relais de la navette spatiale qui va bientôt, le programme de la navette va s'arrêter fin 2010. Et ce projet-là, en toile de fond, alors il y avait effectivement la nécessité de redonner un but à la NASA, mais aussi de répondre répondre aux Chinois qui avaient un programme secret pour retourner sur la Lune. Alors eux, ils le mènent à leur mesure, mais ils avaient cette volonté de retourner sur la Lune. Et une des raisons pour lesquelles les Chinois et les Américains veulent retourner sur la Lune, c'est pour exploiter l'hélium-3, qui est un isotope de l'hélium qui est émis par les particules de vent solaire et qu'on trouve en abondance sur le régolithe lunaire, mais qu'on trouve pas sur Terre. Donc, bon, ça me sert pour l'intrigue. C'est pas sûr que ce soit vraiment la raison qui pousse le retour, mais en tout cas, enfin, c'est clairement mis en avant par les deux pays.
Jean-Paul Gout, siècle bleu. Jean-Pierre Gout, siècle
Jean-Paul,
bleu.
Jean-Paul, c'est mon père.
Ah bah voilà, je le sentais. Alors l'éditeur, c'est assez bizarre. JBZ et compagnie.
Oui, JBZ et compagnie, c'est donc Jacques Binstock, ce sont ses initiales. Et c'est une nouvelle maison qui a été montée par Jacques Binstock, qui est un ancien d'Albin Michel, du Seuil, des éditions Panama, qui a plus de 3000 livres à son actif. Donc c'est une nouvelle mission, mais très ambitieuse, petite taille. Donc ça me plaît beaucoup. On s'y sent bien et le mot maison est mérité.
Mais Adeline Escoffier, qui vous accompagne, qui est de la maison d'édition, disait qu'il n'a pas découvert n'importe qui, votre éditeur. Il y a déjà Bernard Werber,
oui,
qui est un très ancien complice.
En finissant mes études d'ingénieur, je l'avais rencontré, on avait sympathisé, donc il y a maintenant une quinzaine d'années, et je l'avais aidé à monter le site internet de la Révolution des fourmis, donc pendant deux ans, on avait coopéré, et c'est vrai que cette rencontre auprès d'un écrivain avait été importante pour me donner l'envie d'écrire et de voir à quoi correspondait le travail d'un écrivain.
Alors, c'est pas par hasard, évidemment, que je vous pose cette question sur l'éditeur, c'est que, en fait, c'est fondamental, il y a plein de hasards dans votre vie, et il y en a un, d'ailleurs, qui nous relie, en l'occurrence, une certaine Michel Lecouste, le rêve de White Spring. Michel Lecouste qui a participé à la fameuse expérience racontée.
Alors, Biosphère 2. Donc, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à cette problématique de l'environnement, c'est quand en 1988, j'ai entendu parler de ce projet Biosphère 2, qui était un projet à l'époque que je trouvais absolument fascinant, et que je trouve toujours fascinant, dont l'objectif était de construire en plein milieu du désert d'Arizona une grande serre dans laquelle on répliquerait la Terre à une échelle miniature et dans laquelle des hommes et des femmes pourraient vivre en autarcie, c'est-à-dire que les gaz dont ils ont besoin pour vivre, les plantes dont ils ont besoin pour s'alimenter, toutes leurs actions seraient recyclées et ils seraient eux-mêmes en charge d'entretenir l'environnement qui leur permet de survivre. Et cette expérience devait déjà permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre, donc c'était le laboratoire écologique le plus abouti qui ait jamais été construit, et puis surtout il y avait une vision, puisque la personne derrière ça c'est un vrai visionnaire, John Allen, qui était le créateur de Biosphère 2, voulait en faire une expérimentation en vue de construire ce genre de biosphère sur d'autres planètes, sur la Lune, sur Mars. Donc il y avait une vraie vision spatiale que j'avais trouvé vraiment extraordinaire, et j'avais suivi depuis la France cette expérience. Donc ils ont démarré en 1991, la biosphère a été construite. En 93, les gens avaient passé deux ans à l'intérieur, ça s'est arrêté. Il y avait un engouement extraordinaire, même depuis la France, avant l'expérience. Tous les journaux ont parlé, en disant que c'était quelque chose d'absolument fascinant. Et puis subitement, on n'en a plus entendu parler, et il m'a fallu longtemps pour comprendre ce qu'il était advenu de cette expérience. Donc je suis allé aux États-Unis en 99 quand je travaillais à Chicago à la biosphère, j'y ai rien trouvé, et il m'a fallu beaucoup de temps pour rencontrer les gens de Biosphère pour qu'ils me racontent ce qui s'était passé. Une de ces personnes, c'est Michel Decousse, qui était une des participantes de ce projet, alors pas à l'intérieur de la brochure, à l'extérieur, puisqu'elle était la reporter en charge de couvrir tout l'événement et de faire le lien avec les médias et de fabriquer les images mémoire de Biosphère 2. Elle avait écrit un roman qui m'est tombé dans les mains par hasard un jour, Le rêve de White Spring. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce roman justement avec une belle couverture bleue. Et puis un jour, j'y ai retourné et j'ai vu que l'auteur avait travaillé sur le projet Biosphère 2. Donc on s'est rencontrés et à l'époque, j'avais fini la première version du livre. On avait essentiellement parlé du livre, mais je lui avais pas fait lire, mais elle me disait je le lirai un jour. Et un an plus tard, elle m'avait recontacté en me disant où est-ce que tu en es dans tes recherches d'éditeur. Je lui ai dit écoute, je l'ai écrit le livre, mais effectivement, par contre, j'avais pas anticipé que ça serait aussi difficile de trouver un éditeur. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec Jacques Binstock des éditions JBZ et compagnie, qui l'a lu, ça lui a plu tout de suite. Donc c'est je dirais, c'est un livre qui parle beaucoup de Biosphère 2, Siècle Bleu, et c'est grâce à Biosphère 2 que j'ai pu trouver un éditeur. Donc ça fait partie de ces hasards qu'on a dans la vie qui vous servent bien, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Quoi.
Et puis trouver un éditeur qui, sur un auteur inconnu, accepte de partir sur une trilogie, ça ne court pas tout à fait les rues, donc on peut se dire que soit vous n'avez que de la chance, soit vous avez un petit brin de talent quand même, et moi j'opte pour les deux solutions conjointes.
Voilà, mais enfin, je crois aussi aux rencontres et enfin aux personnes, et il s'avère que enfin les autres éditeurs à qui je l'avais envoyé, ils étaient un peu embarrassés, parce que bon, alors c'est un thriller certes, mais c'est aussi un livre scientifique, il y a des réflexions écologiques, il y a des réflexions philosophiques, et les gens savaient pas très bien où le classer, et donc il fallait quelqu'un d'assez courageux pour sortir un livre qui soit pas dans les classements, et Jacques Binstock est justement un éditeur courageux, donc je le remercie aujourd'hui vivement.
Et puis certains pensent même que vous êtes l'écrivain de la génération d'après. Alors je vais pas vous demander de dévoiler, parce que comme c'est une super intrigue et que je m'y suis laissé prendre, je vais pas priver les auditeurs de ce plaisir-là, mais si je vous disais, Jean-Pierre Goux, racontez-moi les 50 prochaines années, c'est quoi votre vision à vous ?
Moi, je vois la vision d'un grand combat entre des forces extrêmement oppressantes qui poussent le monde dans une certaine direction, et en face, des forces du rêve qui doivent les contrer. Et ça va pas se résoudre en un an, en deux ans, en cinq ans. Il faudra, à mon avis, et c'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle Siècle Bleu, un siècle d'efforts pour arriver à faire passer l'homme dans un stade dans lequel il était, c'est-à-dire d'un animal qui s'est multiplié à une vitesse exponentielle sur une petite planète dont il a touché toutes les bornes, à un animal qui maîtrise mieux son environnement, ses actions, la vie avec ses congénères. Donc j'espère que le 21e siècle sera celui-ci, celui d'un âge de raison. Mais cet âge de raison, il faudra beaucoup de temps pour qu'on y arrive, beaucoup d'efforts et beaucoup de rêves et beaucoup de visions.
C'est-à-dire que le monde est devenu petit, mais pour autant l'homme n'est pas devenu grand.
Exactement. Et je crois qu'il faut pas lui en vouloir, parce que tout ça est arrivé très vite. On s'est lancé dans cette course et il y a peu de gens qui ont pris conscience du fait que l'on vit dans un monde avec des dimensions finalement qui sont assez petites. Quand on vit, quand on travaille, on a l'impression que toutes ces actions ont un champ illimité, mais tout se ressent maintenant.
Mais quand on vous lit quand même, on voit bien qu'il y a des choses qui vous semblent plus emblématiques et plus fondamentales que l'autre. Il y a déjà la conquête spatiale,
oui.
Il y a, on va dire, la biologie, le respect de la biodiversité. Il y a des expériences un peu atypiques, comme l'été Biosphère 2, qui portent des projets. Donc quand même, vous piochez pas au hasard dans l'aventure de l'intelligence humaine.
Non, mais par exemple, sur la conquête spatiale, enfin moi je suis ingénieur intéressé par la technique, et enfin j'ai toujours été fasciné par les décollages de fusées, de navettes. Enfin, je trouve ça toujours une démonstration de force incroyable. Mais c'est que il y a une quinzaine d'années que j'ai découvert la poésie qu'il y avait derrière ça. C'est-à-dire que pour moi, le principal apport de la conquête spatiale, bon, il y a des prouesses technologiques et techniques, mais il y a essentiellement la transformation qu'ont subi les astronautes. Et beaucoup d'astronautes que j'ai pu écouter, lire ou rencontrer ont été touchés par une espèce de grâce divine en orbite, en voyant la Terre. Et vraiment, le résultat de la conquête spatiale, c'est ces quelques centaines de personnes qui, pour la plupart, sont parties militaires ou scientifiques et sont revenues humanistes, utopistes, et parfois avec un mal-être aussi et une difficulté à vivre sur Terre, parce qu'ils ont pris conscience qu'on vit dans un monde fragile, magnifique, et ils avaient du mal à le faire partager aux autres. Donc effectivement, la conquête spatiale est une des choses que j'ai choisi de développer là-dedans, parce qu'il faut continuer à porter ce rêve et aussi à le faire vivre au plus grand nombre pour que des gens soient touchés par ces émotions.
Mais le plus grand nombre, ça commence par vos deux enfants.
Oui, alors j'espère qu'ils pourront aller dans l'espace. Le voyage spatial se démocratise. On va voir là dans les années qui viennent le tourisme spatial se développer. Mais ça reste encore très onéreux et ça sera difficile de faire des moyens de transport peu coûteux. Mais en tout cas, les entrepreneurs du spatial privé comme il y en a aux États-Unis peut-être amèneront ce rêve à la portée. Alors j'espère du mien, mais aussi de mes enfants. Je le souhaite pour eux, quoi.
Merci Jean-Pierre Goux. C'est Siècle Bleu, si vous voulez rêver, il reste du temps pendant ces vacances, si vous voulez rêver, c'est chez JBZ et compagnie, c'est un roman, mais pas tant un roman que ça, en tout cas pas au sens de totalement inventé. Et puis c'est que le premier tome, hein, va y avoir une suite, donc...
J'espère l'année prochaine, si mes enfants dorment bien et me permettent de l'écrire dans les temps.
Quoi. Ah non, vous n'avez plus le choix maintenant qu'on l'a lu.
Faudra leur dire, alors.
Ça va être l'année prochaine. Merci Jean-Pierre Goux.
Merci.
Et si vous voulez en savoir plus et suivre l'actualité de Jean-Pierre Goux, il y a un site, Siècle Bleu, en minuscule, attaché. Sièclebleu.org. C'est facile comme tout. En tout cas, c'est l'heure des informations maintenant sur Radio France Internationale. On se retrouve dans quelques minutes, trois, avec Jacques Rougerie lui-même, l'architecte de la mer et du ciel. Ce sera juste après le journal. Just a moment.